Charlevoix, le midi.
FM 93, ça me parle.
Le Conseil supérieur de l'éducation a recommandé l'autre jour au ministre Roberge de supprimer les bulletins en chiffres, là. Pour revenir à des bulletins qui font moins de compétition, etc. Il y a un bon article de deux auteurs aujourd'hui dans le Soleil. Puis, ils en arrivent, si j'ai bien compris, à la conclusion que le bulletin, là, il devrait changer de cycle en cycle. Qu'au préscolaire, c'est pas pareil que le primaire. Puis le primaire, c'est pas pareil que le secondaire. Puis que le problème, c'est pas tant... c'est pas tant les chiffres, les lettres qui sont en cause que ce qu'on est en train d'essayer de dire, puis surtout d'être compris par les parents. On a au téléphone un de ces chercheurs qui s'appelle Marie-Hélène Hébert. Bonjour, Madame Hébert.
Alors, bonjour. Il me fait plaisir de m'entretenir avec vous sur le thème du bulletin scolaire, un thème qui a fait couler beaucoup d'encre récemment. Alors, je peux peut-être vous expliquer ce qui a fait en sorte que mon collègue Éric Frenette et moi, pourquoi on est arrivé à cette fameuse conclusion-là qu'il pourrait y avoir un bulletin différencié en fonction du niveau scolaire de l'élève. Alors, voilà. Donc, nous sommes intéressés à savoir, eh bien, comment des preuves d'apprentissage pourraient être rapportées sur le bulletin de l'élève? D'abord, on a examiné les pourcentages. Vous en conviendrez avec moi qui sont faciles à comprendre pour les parents.
Oui.
Qui les ont eux-mêmes connus pendant leur propre scolarité.
Ouais, et puis on sait que entre 70 et 80 % c'est correct. Au-dessus de 80 % on est fiers, on est contents. Puis en bas de 70 % on est un peu inquiet.
Alors voilà, vous avez tout à fait raison. Cependant, certaines études récentes et anciennes ont montré leur manque de fiabilité. En effet, à quoi peut-on associer dans le concret vraiment la différence de performance entre un élève qui aurait, par exemple, 73 % et 74 %?
Ouais. Ben, ça, c'est la marge d'erreur du prof. Moi, je calcule que la marge d'erreur du prof est de 5 % à peu près.
Voilà, vous êtes pas très loin. Alors, c'est ce qui pourrait expliquer qu'entre 74 et 75, eh bien, il n'y a pas de réelle différence de performance, mais plutôt un manque de précision de l'évaluation.
Uh-huh.
Ensuite, nous sommes intéressés vraiment aux cotes comme ABC, aux chiffres comme 1 pour très bien réussi et aux symboles. Vous savez, les bonhommes souriants et les bonhommes tristes.
Ouais.
Ici encore, eh bien, tout n'est pas rose. Pourquoi? Par exemple, un verdict de D, de non-réussite ou de bonhomme triste serait, selon nous, aussi visible sur le plan de la motivation pour un élève qu'une note de 55 %.
OK. Donc, dans le fond, un 55 % ou un D, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit dans la vie de l'élève ni pour le parent.
Alors voilà, si vous accumulez les bonhommes tristes, vous accumulez les D ou que vous accumulez, pardon, les 55 %, au bout du compte, votre motivation pourra se trouver au plancher. Alors voilà, ce n'est peut-être pas la solution rêvée partout.
OK.
Ensuite, on a poussé la réflexion encore plus loin, sachant que les pourcentages, les cotes, les symboles, vous savez, ça ne met pas en lumière vraiment ce qui va et ce qui ne va pas dans les apprentissages des élèves. Nous sommes allés encore plus loin et on est allé voir vraiment ce genre de bulletin où l'enseignant est appelé à synthétiser, sous la forme d'un commentaire personnalisé en style libre, le portrait des forces et des difficultés de l'élève.
Okay. Autrement dit, quand le prof écrit dans le bulletin, ça dit quelque chose de vrai aux parents.
Alors, ça dit quelque chose. Voilà, si j'enseignais, par exemple, en mathématiques au secondaire, je pourrais écrire très bien. Luc s'en sort très bien avec l'addition et soustraction des fractions, mais ne parvient pas à diviser avec aide, sans aide plutôt.
Okay.
Je suggère qu'il vienne en récupération et qu'il cesse de bavarder.
OK. Bon, là je le sais qu'il bavarde.
Luc, il ne peut plus bavarder, il ne peut plus rien dire. Il est fait, là, lui.
Il est fait. Alors, voilà, vous comprendrez que c'est
fait à l'os.
Les cotes, les commentaires, eh bien, parfois il y a du bon, parfois il n'y a pas de bon, justement.
Mmh.
Les commentaires peuvent être très appropriés lorsque vous enseignez au préscolaire à 20 enfants. Mais si vous êtes au secondaire et que vous enseignez à 150 élèves, eh bien, vous comprendrez qu'on ne peut pas demander à un enseignant d'avoir 5-6 lignes, 3 paragraphes de commentaires pour chaque élève.
C'est sûr que c'est le prof qui est dans une spécialité puis qui change de classe à tout bout de champ. Il remarque pas certains élèves. Il est pas capable d'envoyer des messages de ce genre-là. Alors comment il fait, lui, pour noter?
Et je pense entre autres aux enseignants d'éducation physique qui, dans le feu de l'action, peuvent enseigner à énormément d'élèves. Donc, ce n'est pas pensable. Et c'est ce qui nous a amené à conclure que le bulletin scolaire idéal tout nouveau niveau scolaire confondu. Vous savez, c'est un peu comme le bonhomme 7 heures ou les licornes. Ça n'existe pas.
Vous n'êtes pas encourageant.
Il y a le bonhomme carnaval. Là.
Ben, celui-là, il existe. On l'a eu à Québec récemment.
Mais j'ai des collègues, prof Hébert, qui m'ont dit, nous, on recevait une note de 1 à 5, là, 1 étant très bon, puis 5 étant poche. Puis, pour le prof cotait A, B, C, D, E pour l'effort. Autrement dit, quelqu'un qui avait 3, mais un A pour l'effort, il faisait son possible. C'est ce qu'on comprenait. Est-ce que ça, la combinaison de deux notes comme ça pourrait donner quelque chose?
Alors oui, ça pourrait donner quelque chose. En fait, la recherche montre que le résultat scolaire sur le bulletin, d'une part, doit vraiment provenir des apprentissages des élèves. Donc, dans la note du bulletin, dans la cote, on doit prendre en considération les apprentissages, non pas le fait qu'un enfant est turbulent, non pas le fait qu'il est hyper gentil, non pas le fait qu'il remette un travail en retard ou quoi que ce soit. Que les experts recommandent, c'est de conserver une note pour les apprentissages et d'avoir autre chose à côté, comme le comportement, effectivement. Donc, c'est pourquoi certains adultes aujourd'hui ont rencontré dans leur jeunesse ce genre de bulletin avec deux façons de rapporter les apprentissages et le comportement.
Moi, je continue à bien aimer les pourcentages parce que c'est ce qu'on connaît puis que c'est ce qui est le plus facile. A, B, C, D, E, ça me paraît plus imprécis. Mais dans le fond, le ministre, il n'a pas tort quand il dit « on va garder les pourcentages, mais il faut rajouter un autre ingrédient pour savoir ce que l'enfant doit faire. »
Alors en fait, le meilleur conseil que je pourrais donner au ministre, c'est vraiment d'écouter les parents québécois parce que le bulletin scolaire, à qui se destine-t-il? Il se destine aux parents. Alors, si le parent souhaite avoir un pourcentage, si le parent souhaite avoir une moyenne de groupe, je crois qu'il faut d'abord et avant tout l'écouter. Et la solution que nous proposions vraiment dans l'article de ce matin, eh bien, c'est d'y aller vraiment avec des bulletins différenciés, peut-être un bulletin au préscolaire où on travaillerait vraiment avec des commentaires sur les forces et les faiblesses des enfants, puisqu'on a 20 enfants dans la classe où c'est possible. Peut-être des bulletins justement par pourcentage au secondaire. Pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'enfants, d'élèves dans la classe. Il faut se rappeler aussi que les bulletins du secondaire deviennent importants lorsqu'on fait le transfert au collège. Comment entrer dans un système quelconque, les forces et les défis des enfants, vous savez que ce n'est pas possible. Donc, on fonctionne avec un chiffre pour l'entrée au cégep et l'entrée à l'université. Il reste à voir pour le primaire. Est-ce qu'on voudrait, les enseignants et les parents, aller vers un bulletin avec des cotes où on pourrait dire, par exemple, A progresse très bien, B progresse bien, etc. Donc, tout est à faire. Et puis, voilà. Donc, c'était une solution qu'on souhaitait proposer.
C'est de la musique à mes oreilles que de vous entendre dire « Le ministre doit écouter les parents ». Me semble que souvent, les parents ont été décomptés dans le système d'éducation.
Alors, voilà. Il ne faut pas les
Ils sont considérés comme des fatigants.
Le ministre doit vraiment les servir.
Merci beaucoup, prof Hébert.
Ça m'a fait plaisir. Et en terminant avec une pointe humoristique, j'aimerais vous dire que je vous donne une excellente note pour votre émission.
Merci. On prend le bonhomme souris.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Marie-Hélène Hébert est professeure en mesure et évaluation à l'Université TELUC. Tu sais, le Conseil supérieur de l'éducation dit qu'il faut lâcher les notes. Le ministre dit qu'il faut garder les notes. Puis dans le fond, elle a raison. Comme c'est un outil de communication avec les parents, si on le demandait aux parents, ce serait peut-être plus simple.
Effectivement, puis le Conseil supérieur de l'éducation, abolissez-le, une bureaucratie de trop, du taponnage.
Il est midi.